aujourd'hui avec le père Nicolas Benedetto.
Chers amis, bonjour. J'espère que vous vous portez bien, que c'est une belle journée pour chacun d'entre vous. Nous continuons notre parcours, les grands événements de la vie de Jésus, en nous intéressant en particulier au rôle de Marie dans ces événements. Alors bien sûr, l'incontournable, même si aujourd'hui la liturgie nous indique que nous avons plutôt quitté le temps de Noël, même si nous avons tous déjà rangé notre crèche au placard, la nativité de Jésus. Parce que c'est un tel trésor pour notre vie spirituelle, parce que tout y est contenu. L'incarnation, Dieu s'est fait homme, le plus beau de tous les mystères. Et celui qui y est attaché, la rédemption, le rachat de nos fautes, pourrait-on dire, en tout cas la délivrance de la mort. Eh bien, cet enfant Dieu, qui est vraiment la deuxième personne de la Trinité, qui s'est abaissé, qui a pris la dernière place parmi nous, en naissant dans une mangeoire à Bethléem. Voilà notre grande espérance, voilà notre grande joie. Et les mystères de la croix et de la résurrection sont, on pourrait dire, déjà présents, cachés à Bethléem, dans la grotte de Bethléem. Alors ici, le rôle de Marie peut paraître évident dans la nativité de Jésus. Bien sûr, elle est d'abord celle qui l'a porté pendant 9 mois dans son ventre et qui le met au monde dans des conditions d'ailleurs plus que stressantes. Alors déjà, quand une naissance se passe très bien à la maternité, entourée de sages-femmes compétentes et rassurantes, avec toutes les ressources modernes d'un hôpital, on est déjà rassuré en se disant « le moindre problème, on va pouvoir réagir tout de suite ». Eh bien, même comme ça, une naissance, c'est pas une mince affaire, et encore, je ne sais pas de quoi je parle, mais j'imagine. Sans compter qu'ici, Marie est très jeune, elle a peut-être 15 ou 16 ans, c'est son premier enfant, et les conditions sont pas faciles. Alors, je ne sais pas si Joseph était un peu dépassé par l'événement ou s'il a été une sage-femme merveilleuse. En tout cas, il a dû certainement vivre cela dans la prière, dans la foi, être un véritable soutien pour son épouse, c'est sûr. Alors, lisons, si vous voulez bien, un passage de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, les versets 4 à 19. Joseph monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors, voilà, le premier rôle de Marie, bien sûr, mère terrestre de Jésus, pourrait-on dire, hein, encore une fois, un rôle qui n'est pas petit. Mais on voit apparaître dans ce texte un deuxième rôle qui vient comme se surajouter. et qui nous concerne d'ailleurs plus directement. On pourrait dire un rôle spirituel. Marie, en entendant les paroles des bergers qui rapportent les paroles de l'ange, Marie, en contemplant tous les événements qui se déroulent, nous dit le texte, retenez ces événements et les méditez dans son cœur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, qui est vivante, qui est efficace, eh bien Marie a appris à la recevoir dans la bonne terre de son cœur aimant. Et du coup, cette parole, cette graine, cette semence va pouvoir pousser, va pouvoir se développer et porter du fruit 30, 60, 100 pour 1, comme dans la parabole du semeur. Voilà, un fruit extraordinaire dans le cœur de Marie. Ça a été probablement très difficile pour Marie parce qu'elle était tellement avancée spirituellement qu'elle n'avait pas beaucoup de points de comparaison. Voyez, le reste de sa famille terrestre, les cousins de Jésus, n'étaient probablement pas sur la même longueur d'onde. Marie a toujours appris à retenir les paroles de Dieu, à les méditer, et elle a avancé très vite, elle a couru sur les chemins du Seigneur. Elle a été à la fois la mère terrestre de Jésus, donc elle avait de toute façon un lien vraiment privilégié avec Jésus, comme toute mère avec son enfant. Mais en plus de cela, spirituellement aussi, elle avait une grande longueur d'avance, elle avait un lien extrêmement fort. On dit souvent que voilà, son cœur battait en même temps que celui de Jésus, que quand Jésus a vécu sa passion plus tard, elle aussi, on parle de la passion de Marie. Voilà. Un glaive a transpercé son cœur, comme l'avait dit le prophète Siméon. Nous voyons cela apparaître un petit peu, ce décalage, cette douleur de Marie, dans un passage de Marc, chapitre 3, que je vous propose de lire. Alors, au verset 20 et 21, Marc dit ceci. « Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les gens de chez lui, c'est-à-dire en fait sa famille, on va le voir un peu plus tard, quelques versets plus loin, sa famille commence à s'inquiéter, il se dit « mais en fait, notre Jésus, certains disent que c'est un prophète, voire peut-être le Messie, nous on espère justement, c'était notre prière d'attendre le Messie, on est en train de se rendre compte que peut-être que l'un des nôtres, il est de chez nous, de notre village, eh bien c'est lui le Messie, mais en fait, on est en train de se dire « mais non, en fait, il est en train de devenir fou, il prend même plus le temps de manger ». On va aller là où il est, à Capharnaüm, entouré de ses disciples, et en fait, on va le séquestrer. On va le ramener chez nous, et on va voir ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va l'arracher à cette foule en furie, et on va essayer de lui redonner la raison. Ou quelque chose comme ça. Et donc, quand on voit quelques versets plus loin, à partir du verset 31, « Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. » Entre parenthèses, nous on sait que s'ils le font appeler, c'est pas juste pour dire ben « nous on voudrait aussi écouter tes homélies », mais c'est plutôt, en fait, ils veulent l'emmener. Ils veulent le capturer, en quelque sorte. Je continue. « Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Vous voyez, probablement, Marie a dû souffrir beaucoup dans ce voyage, accompagnée de ses cousins, de certains membres peut-être du village, pour venir prendre Jésus, parce qu'elle, elle avait une grande confiance. En fait, elle, c'est la première croyante. Quand Jésus dit « voici ma mère et mes frères », en désignant ceux qui sont autour de lui à l'écouter, en fait, c'est la plus concernée. C'est la meilleure de toutes les disciples, c'est elle qui écoute depuis si longtemps déjà la parole, qui la met en pratique. On pourrait dire, c'est aussi elle, vous voyez, qui construit sa maison intérieure sur le roc de la parole de Dieu, comme dans la parabole. Mieux encore, d'ailleurs, au pied de la croix, quand Jésus dit aux disciples bien-aimés, « voici ta mère », Marie devient vraiment pleinement notre mère du ciel. Donc, quand Jésus dit « voici ma mère et mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu », voilà comment ça convient si parfaitement à Marie. Marie, mère terrestre de Jésus, mère céleste, non seulement de Jésus, parole de Dieu, Verbe fait chair, puisque elle conçoit la parole dans son cœur, elle la garde et elle porte du fruit, mais aussi mère céleste de chacun d'entre nous, puisque nous aussi, comme nous sommes devenus par le baptême les frères et sœurs de Jésus, eh bien, on pourrait dire que Marie nous enfante dans la foi. Voilà. Le mystère de la nativité de Jésus, c'est l'occasion pour nous de mieux comprendre la place à la fois discrète et si essentielle, si extraordinaire de Marie dans notre propre vie chrétienne. Elle nous enfante dans la foi. Elle est à la fois notre modèle en tant que première des croyantes, mais elle est surtout notre mère. Voilà. Comme elle a enfanté le Christ dans la chair, elle nous enfante chacun de nous dans la foi. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.